Le journal, présenté par Marc Potvin.
Bonjour à toutes et à tous. De nouvelles frappes visent ce matin Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. On vient de l'apprendre. Les combats sur place entre les séparatistes soutenus par l'Arménie et les troupes de l'Azerbaïdjan ont repris depuis maintenant plus d'une semaine. Plus de 240 personnes sont mortes, selon un dernier bilan officiel. Nous serons à Stepanakert avec des civils qui fuient cette ville dans le journal de 9h. Une deuxième nuit à l'hôpital pour le président des États-Unis, Donald Trump, soigné dans la banlieue de Washington après sa contamination au coronavirus. Il va beaucoup mieux, assure son médecin. Pourtant, toutes les interrogations sur son état de santé ne sont pas levées. D'ailleurs, le chef d'État américain lui-même ne s'est pas montré totalement rassurant. Loïc Loury, il s'est exprimé dans un nouveau message vidéo.
Lorsque je suis arrivé ici, je n'allais pas très bien. Donald Trump le reconnaît presque d'entrée dans cette vidéo de 4 minutes tournée à l'hôpital militaire Walter Reed. Mais le président, visiblement pas au meilleur de sa forme, est optimiste. Je suis en bien meilleure forme. Nous travaillons dur afin que je sorte d'ici. Il le faut parce que nous devons toujours rendre sa grandeur à l'Amérique. Nous avons déjà fait du super boulot. Il faut qu'on finisse ce qu'on a commencé. Le président, pour autant, n'est pas encore tiré d'affaire. Connaissait hier soir son médecin, prudemment optimiste, dit-il dans un communiqué. Dans l'après-midi, les déclarations d'une source identifiée par le New York Times comme le chef de cabinet présidentiel lui-même, par ailleurs, avaient semé la confusion. Les signes vitaux du président ces dernières 24 heures, disait-il, ont été très inquiétants et les 48 prochaines heures seront critiques. Donald Trump, avec un ton qu'on ne lui connaît guère, a d'ailleurs évoqué les jours à venir. Je commence à me sentir bien. On ne sait pas ce qui va se passer ces prochains jours. Je crois que c'est le vrai test. Alors, on verra ce qui se produit. Mais le président l'affirme, comme pour faire taire les critiques qui grondent depuis des mois sur son comportement. Je n'avais pas d'autre choix, dit-il, que de m'exposer au virus.
Eux refusent les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus. Des milliers d'antimasques ont formé une chaîne humaine. Hier, au bord du lac de Constance, lac à cheval sur l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. À Berlin aussi, des militants de cette mouvance se sont mobilisés. Ludovic Piétenu, vous l'avez constaté sur place, le mouvement anti-masque se radicalise.
Le nombre d'infections est reparti à la hausse en Allemagne, particulièrement ici à Berlin. Mais les anti-masques sont semaine après semaine dans la rue pour dénoncer les mesures d'hygiène et de distanciation physique qu'ils jugent inutiles. Ce n'est pas une pandémie, dit cet homme, c'est une plandémie. Cela veut dire que tout a été planifié à l'avance. Tim Riesen est ambulancier, il est venu du nord de l'Allemagne pour manifester dans la capitale en ce jour de fête nationale. Tout se regarde rétrospectivement comme le scénario d'un film, avec cette question: que veut-on nous cacher? Est-ce que tout ceci ne serait pas lié à la 5G ou la 6G? Il s'interroge aussi sur la réelle dangerosité de ce virus. Les gens en ce moment ne meurent-ils pas en réalité de la grippe? Plusieurs théories complotistes s'enchaînent encore. Tim Riesen est, comme beaucoup des manifestants autour de lui, une personne déçue par les partis politiques, à qui il n'accorde plus sa confiance, sauf à l'AFD il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, il ne donnerait plus à ce parti d'extrême droite sa voix. Il leur préfère un groupe qui se structure de plus en plus en Allemagne via Internet, les Querdenken. Cela veut dire ceux qui pensent autrement et qui ne croient pas en cette épidémie de coronavirus.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture à Berlin. Près de 17 000 cas de Covid-19 recensés ces dernières 24 heures en France, un record depuis l'utilisation de tests à grande échelle. Face à la montée du nombre des cas positifs, Paris et plusieurs autres métropoles pourraient subir dès demain de nouvelles restrictions radicales. Dans le Pacifique Sud, les îles Salomon, elles, perdent leur bataille pour rester hors de portée du Covid-19. Un étudiant de retour des Philippines a été testé positif. Il ne reste donc dans le monde que 9 petits pays et territoires isolés n'ayant jamais enregistré le moindre cas de Covid-19. En Nouvelle-Calédonie, archipel lui aussi dans le Pacifique Sud, les bureaux de vote fermeront dans une heure. Le deuxième référendum sur l'indépendance de cette collectivité française est marqué par une forte participation, plus de 49% à la mi-journée, hausse de 8 points par rapport au premier référendum sur ce sujet en 2018. Emmanuel Macron prévoit de s'exprimer à 13h après l'annonce des résultats. Les salariés du site Bridgestone de Béthune une dans le Pas-de-Calais appelée à manifester à partir de 9h30. Mobilisation contre la fermeture programmée de leur usine qui emploie 863 salariés. Dans ce contexte, le secrétaire national du Parti communiste demande au gouvernement de faire pression en interpellant directement les autorités japonaises. Déclaration chez nos confrères de France Info. Une première réunion de négociation autour du plan social doit se tenir mardi. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra n'est plus en prison en Iran. Elle est libérée temporairement sous bracelet électronique. L'anthropologue va s'installer avec sa famille à Téhéran, indique son avocat. Le comité de soutien à Fariba Adelra a beau être soulagé, il réclame sa libération inconditionnelle. Jean-François Bayard fait partie de ce comité de soutien. Il explique pourquoi la chercheuse a été relâchée.
L'objet de cette assignation à résidence, si nous avons bien compris, est d'ordre médical. Fariba Adelra pourra ainsi faire les examens médicaux que nécessitent les séquelles de sa longue grève de la faim en janvier-février. C'est effectivement une bonne nouvelle. Donc si on voit le verre à moitié plein, très bien. Mais enfin, il y a plus du verre qui est à moitié vide, si je veux dire. Elle est malheureusement susceptible de retourner en prison. Aujourd'hui, Fariba et Adelra est toujours sous le coup d'une peine d'emprisonnement de 5 ans pour des faits complètement fantasmatiques sur la base d'un dossier d'accusation délirant et sa seule culpabilité est d'avoir exercé en toute indépendance d'esprit et en toute rigueur son métier d'anthropologue.
Jean-François Bayard du comité de soutien à Fariba Adelra. Les importantes pluies et les crues soudaines liées à la tempête Alex font 2 morts en Italie, au moins 8 disparus de l'autre côté de la frontière avec la France dans les Alpes-Maritimes. Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu hier sur place. Il ne cache pas sa vive inquiétude sur le bilan définitif. Après le passage de cette tempête, 2 départements restent en vigilance orange pour pluie inondation, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. La pluie qui va tomber presque partout aujourd'hui, des orages sont même à prévoir sur l'île de France, le centre Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la façade atlantique du Pays Basque à la Vendée. Température ce matin de 11 au nord à 15 au sud.